je suis sur la terrasse du cinéma Jean Eustache au Festival du film historique de Pessac avec Fabrice Ben-Simon. Bonjour Fabrice Ben-Simon.
Bonjour.
Juste après le repas, donc on est en pleine digestion, mais on va être passionné puisque vous êtes un spécialiste de l'histoire de l'Angleterre du 19e siècle. Vous enseignez à la Sorbonne et vous êtes, corrigez-moi si je me trompe, Research Fellow at the University of London. Oui. C'est exact.
University College London, oui.
Voilà, merci de me corriger. Et donc là, nous avons affaire cette année à une programmation consacrée à l'Angleterre, que vous connaissez parfaitement. Quelle est votre opinion actuelle sur ce qui se passe justement sur ce lieu de passage qu'est Calais, par rapport à ce qu'on entend quasiment de manière quotidienne dans les médias télévisés sur, il y a eu le démantèlement de la fameuse jungle, mais on sait que les camps, bah, malheureusement, les gens sont contraints de rester sur place. Quelle est votre opinion ?
Mais Calais, alors les Britanniques connaissent bien Calais. Les Britanniques connaissent bien Calais pour plusieurs raisons. D'abord, c'est le point d'entrée vers le continent et les Britanniques vont plus sur le continent que les continentaux ne vont en Grande-Bretagne. Les Britanniques connaissent la France et ils sont habitués à passer par Calais. En plus, il y a aussi une histoire de Calais et de ses rapports avec la Grande-Bretagne. Alors, je pense qu'en Grande-Bretagne, il y a à la fois de la part du gouvernement la volonté de faire de Calais un point de blocage pour l'accès des migrants au sol britannique. En même temps, ce qu'on voit aussi, c'est beaucoup de sympathie. Je suis frappé par le fait qu'à Calais, par exemple, vous avez beaucoup de militants, des organisations humanitaires, des bénévoles, qui ne sont pas français, qui sont britanniques, en fait, et qui ont été sensibilisés au sort des réfugiés par des reportages qu'ils ont vus dans les médias, la télévision, dans la presse écrite. Je crois que il y a aussi une volonté un petit peu du gouvernement de payer pour que la Grande-Bretagne n'ait pas une crise des réfugiés comparable à celle que connaissent des pays comme la Grèce ou l'Italie. Voilà, enfin, c'est un petit peu ce que je peux dire pour commencer. C'est vrai qu'à Calais, moi je suis allé pour plusieurs fois là pour le travail. On est frappé par le fait que bon, la jungle a été démantelée, mais en fait, les migrants sont toujours là. Alors ils sont sommés de se rendre invisibles et de disparaître sous terre. Ils sont dispersés quand ils s'agrègent. Bon, on a un peu caché la misère en démantelant la jungle, mais on n'a pas résolu le problème. Alors, pourquoi les migrants veulent aller en Grande-Bretagne ? Il y a des raisons variées, mais notamment il y a des raisons familiales. Il y a aussi des raisons linguistiques. Beaucoup de ces migrants viennent
de l'ancien empire.
Voilà, ou d'Afrique orientale, où l'anglais est plus parlé que, même si c'est pas forcément, on n'est pas forcément la langue dominante, c'est quand même une langue qui est plus parlée que le français. Et puis, il semble aussi qu'il y ait la possibilité plus aisée de s'insérer dans des réseaux d'économie informelle qui sont très, en Grande-Bretagne, qui sont très, très, très nombreux, très, très, très présents, plus encore que sur le continent. Donc, c'est des raisons diverses qui font de, bon, il y a cette attractivité pour des gens qui ont déjà bravé la mort et le naufrage, et donc bon, bah, pour lesquels franchir un mur de plus n'est pas rédhibitoire.
Et vous parlez des obstacles qu'ils ont traversés, surmontés. Il y a également le trafic d'humains. Est-ce que, malheureusement, vu les situations à la fois sanitaires, les situations d'entassement dans ces camps de migrants, est-ce qu'il y a aussi des risques que le trafic se développe ?
Alors moi, je ne suis pas spécialiste de, on va dire, des migrants aujourd'hui. Ce qu'il y a, c'est que, pour ce que j'en comprends, la France refuse qu'un camp du type les camps du Haut Commissariat aux réfugiés mis en place dans de nombreux pays soit établi en France. Si on prend le cas des Syriens, il y a quelques milliers de Syriens en France, il y en a, je crois, plus de 2 millions en Turquie, 1 million au Liban. Et c'est vrai que en rejetant toute prise en charge décente, humaine, de la crise migratoire, sans doute aussi que les autorités rendent la vie plus facile aux mafias, aux réseaux criminels. Vous avez vu qu'en Libye, là, il y a un accord entre l'Union européenne et la Libye pour que la Libye garde ses migrants. Mais du coup, il y a des conditions pour les migrants qui sont terribles. Là, ils ont parlé en effet de ventes aux enchères dans un reportage du CNN, mais enfin, ça fait plusieurs années qu'on sait que la Libye, que les migrants d'origine africaine en Libye sont traités de façon terrible. Quoi.
Mais vous parlez justement de Calais comme lieu de passage pour les migrants. Ce n'est pas nouveau, puisque d'après vos ouvrages, on voit que déjà au 19e siècle, il y avait énormément de passages.
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au 19e siècle, en fait, Calais, pour les Britanniques, ce n'est pas tellement le lieu par lequel passent ceux qui veulent venir, c'est le lieu par lequel passent ceux qui veulent partir. Parce que la Grande-Bretagne est d'abord une grande nation des migrants. La Grande-Bretagne, au 19e siècle, a été le pays européen au plus fort taux d'émigration. On oublie ça, mais les Britanniques ont émigré dans des proportions colossales. Pour vous donner un ordre de grandeur, entre 1815 et 1914, donc sur un siècle, il y a environ 22 millions de Britanniques et d'Irlandais qui ont quitté le Royaume-Uni pour aller vivre notamment aux États-Unis, mais aussi dans les grandes colonies de peuplement britanniques qui étaient l'Australie, le Canada et la Nouvelle-Zélande. Et il y en a une petite partie qui vont sur le continent. Et ceux-là, notamment, ils vont au moins par Calais. Certains vont même à Calais. Il s'agit notamment des denteliers, toute une industrie de la dentelle qui se construit à partir de la fin des guerres napoléoniennes dans le nord de la France et à l'origine établie par des denteliers britanniques qui viennent sur place pour échapper aux droits de douane qui pénalisent leur production à l'entrée du marché français.
Et les Irlandais, par contre, ils fuient à la famine.
Alors les Irlandais émigrent énormément, ça commence avant la famine, et ça, c'est la grande famine de 1845-1850, et en effet, la famine augmente de façon massive le départ, à tel point que la population irlandaise baisse, ce qui est unique dans l'histoire européenne, ce qui est unique dans l'histoire du 19e siècle européen, la population irlandaise baisse, elle passe d'environ 8,5 millions, vers 1845, à moins de 5 millions au début du XXe siècle. Et cette baisse, c'est la mortalité des familles, mais surtout l'émigration. Les Irlandais ont émigré dans des proportions considérables, là aussi en priorité vers les États-Unis.
Fabrice Ben-Simon, à travers ce que vous dites, on comprend qu'il y a toujours une attraction dans un sens comme dans l'autre, mais là, actuellement, l'attraction elle est plutôt vers l'Angleterre. Est-ce que c'est lié seulement à des raisons familiales ou est-ce qu'il y a peut-être une image un peu utopique de ce que représente l'Angleterre ?
Moi, je pense que si vous êtes érythréen ou soudanais ou syrien ou irakien, vous vous dites que vous pourrez vivre mieux en Grande-Bretagne et ça n'est pas forcément faux. Maintenant, c'est plus complexe parce que les Britanniques continuent d'émigrer beaucoup. Beaucoup de Britanniques qui vont vivre en Australie, qui vont vivre au Canada, qui vont vivre aux États-Unis, qui vont vivre en Espagne. Il y a plusieurs centaines de milliers de Britanniques qui vivent en Espagne aujourd'hui. Hein. Alors, bon, il y a des raisons diverses, et puis ce n'est pas forcément les mêmes tranches d'âge et de même catégorie professionnelle. Ce qui est vrai, c'est que la Grande-Bretagne, ça reste un pays relativement riche, même si c'est un pays qui est aujourd'hui très inégalitaire, avec une répartition des richesses parmi les pires au monde, selon les statistiques officielles. Et puis, c'est un pays où le droit du travail a été très déréglementé, très assoupli, sous les gouvernements des années 80, 90, 2000, et où, du coup, même des migrants clandestins peuvent trouver assez aisément à s'employer dans les chantiers du bâtiment, dans les entreprises de nettoyage, dans l'agriculture et dans d'autres secteurs comme la restauration ou l'hôtellerie.
Et d'après votre connaissance, à travers plus d'un siècle justement de ces mouvements, de ces flux, est-ce que vous pensez que ça va se stabiliser ? Parce que vous avez peut-être vu dans l'histoire des périodes où on a pu un petit peu stabiliser et légaliser les gens. Là, vous avez espoir par rapport à ce qui se passe ?
Alors, le gouvernement britannique, là, dans la configuration actuelle, est plus dans la tendance inverse. C'est-à-dire que les négociations qu'il mène en ce moment avec l'Union européenne visent notamment à restreindre l'immigration, non seulement depuis les pays extra-européens, mais surtout depuis les pays européens. Parce que depuis 2004, la Grande-Bretagne a connu une forte immigration en provenance d'Europe de l'Est, des pays nouvellement adhérents à l'Union européenne comme la Pologne ou la Roumanie. Et ce que le gouvernement de Theresa May veut, c'est pouvoir limiter cette immigration. Donc, par rapport à vos questions, je pense qu'on est plutôt, sauf retournement de situation qui est aujourd'hui difficile de prévoir, on est plutôt dans une tendance malthusienne sur le plan migratoire. Plutôt une tendance à la fermeture des
frontières.
Elles sont déjà fermées, mais enfin, elles ne sont pas encore fermées pour les citoyens de l'Union européenne. Et un des objectifs que le gouvernement vise dans ses négociations avec Bruxelles, c'est justement de pouvoir réglementer cette immigration de provenance européenne.
Et puis il y a beaucoup de disparités entre les membres de la communauté européenne. Quant à vos frontières, on pense bien sûr à la Pologne, on pense à la Hongrie, même la Macédoine, où là c'est exacerbé par rapport à d'autres pays qui font leur devoir d'accueil.
Ah, vous voulez dire comme pays d'accueil? Alors, la Grande-Bretagne, elle a accueilli en effet beaucoup de résidents, de ressortissants européens, parce que là, les réglementations européennes l'y obligeaient. Elle a accueilli des réfugiés d'origine syrienne ou irakienne, enfin soudanaise ou irakienne, enfin pour parler de pays qui connaissent la guerre ou la dictature, de façon assez restrictive, un peu comme la France. Il y a quand même assez peu de Syriens qui ont pu gagner la Grande-Bretagne, il y a assez peu d'Irakiens, il y a assez peu de Soudanais ou d'Érythréens. Il y en a un peu, mais dans des proportions qui sont quand même faibles. Je n'ai pas de chiffres récents à l'esprit, mais c'est aisé de vérifier qu'il s'agit plutôt de milliers que de dizaines ou de centaines de milliers en général.
Mais là, on parle d'un ancien empire colonial très important, comme l'a été la France. Est-ce qu'ils n'ont pas un devoir par rapport à leurs anciennes colonies?
Alors, la Grande-Bretagne, à partir de 1948, a organisé l'immigration depuis son empire colonial. C'était un empire colonial qui était ébranlé, qui était en voie d'effondrement, mais elle a organisé l'immigration depuis la Jamaïque, depuis l'Inde et le Pakistan et le Bangladesh, depuis même le Ghana ou le Nigeria, enfin l'ancien pays de l'Afrique britannique. Et cette immigration a été très organisée, notamment pendant une période de relatif plein emploi, qu'ont été les années 50 et 60, et même le début des années 70.
On avait besoin de main-d'œuvre.
On avait besoin de main-d'œuvre dans l'industrie, dans les hôpitaux, dans les services sociaux, dans la poste. Et ailleurs. Et alors aujourd'hui, on est dans un peu un retournement de tendance, même si, encore une fois, il y a beaucoup de secteurs d'économie qui reposent sur l'immigration pour fonctionner. Si vous allez en Bretagne, si vous êtes dans un hôpital britannique, toute une partie du personnel n'est pas britannique. Si vous allez dans un fast-food ou un restaurant à Londres, il y a fort à parier que la majorité du personnel soit non britannique. Si vous allez à la période des récoltes dans une ferme anglaise, il y a fort à parier pour que une bonne partie des ouvriers agricoles soient étrangers. Donc c'est un paradoxe. Un paradoxe à la fois dans l'histoire et dans le fonctionnement de l'économie, et, d'un côté, et puis d'autre part dans le discours qui est celui, en effet, de, voilà, nous voulons choisir nos migrants et en limiter le nombre.
Bon, en fait, c'est une réaction qui est un petit peu exacerbée dans l'immédiat, sans regarder au long cours.
C'est une réaction, comment vous dire, qui est liée aussi au fait que beaucoup de Britanniques ont vu leur niveau de vie se dégrader. Sont marqués par la crise, marqués par sinon le chômage qui est officiellement assez faible, mais en tout cas par le sous-emploi, par la précarité.
L'économie parallèle.
L'économie. C'est aussi une précarité organisée. Par exemple, depuis une dizaine d'années, il y a des contrats zéro heure qui concernent maintenant plusieurs centaines de milliers de Britanniques, qui sont des contrats d'extrême précarité. Donc, comme en France, l'opposition à l'immigration a été vue, a été comprise comme un moyen de remédier à ces difficultés, même si ça n'a rien à voir.
Et donc, votre regard, par rapport à tout ce que vous avez comme connaissance, vous êtes souvent en Angleterre, il est plutôt pessimiste? par rapport à l'avenir, les prochaines décennies ?
Bah, c'est difficile de faire des pronostics parce que d'un côté, vous avez des sentiments comme ceux qu'on a évoqués qui s'expriment, des sentiments parfois xénophobes, protectionnistes. Et puis en même temps, vous avez en Grande-Bretagne beaucoup de brassages. Beaucoup de gens sont habitués, et c'est très différent de ce point de vue-là de la Grande-Bretagne, par exemple, de la Première Guerre mondiale, sont habitués à grandir, à vivre avec des enfants et des adultes originaires des quatre coins du monde. Londres, par exemple, est une ville très cosmopolite, plus que Paris, plus que Berlin, je pense aussi, ou que les grandes villes suisses. Il y a beaucoup de paradoxes, et c'est difficile de savoir dans quel sens on va aller.
Alors, je rebondis sur vos propos, Fabrice Ben-Simon. Vous parlez de mouvements xénophobes. On n'a jamais vu autant de resurgence des mouvements xénophobes qu'on a connus il y a 70 ans. On pense par exemple aux milices néo-nazis en Hongrie où la moyenne d'âge c'est 15-25 ans.
Ouais. Alors en Grande-Bretagne, ça n'existe pas à ce point-là. Disons que sur le plan politique, on peut donner deux exemples de manifestations récentes de sentiments xénophobes. D'une part, l'émergence d'un parti qui s'appelle UKIP. UKIP, ça veut dire le Parti de l'indépendance du Royaume-Uni, United Kingdom Independence Party. C'est un parti qui a eu un certain nombre de voix dans différentes élections, notamment les élections européennes, mais pas seulement, au cours des 5-6 dernières années, et qui a tout un discours anti-étranger. Et puis l'autre exemple, même s'il est plus ambigu, celui-ci, c'est le vote pour le Brexit le 23 juin 2016. Donc, une majorité d'électeurs se sont prononcés pour la sortie du Royaume-Uni, de l'Union européenne. Alors là, je dis que c'est plus ambigu parce que les motivations des électeurs lors du vote pour le Brexit sont souvent diverses. Mais c'est vrai, il y a plusieurs raisons. Quand vous dites, selon les gens avec qui vous discutez, il y a quand même plusieurs raisons.
Et souvent, il y a aussi une tranche d'âge aussi.
Tout à fait. Et puis selon les régions, il y a des gens très cossus qui ont voté pour le Brexit, il y a des gens très pauvres, c'est assez mélangé. Il y a des gens, par exemple, une catégorie comme les fermiers, les agriculteurs, qui bénéficient beaucoup des subventions européennes, ont massivement voté pour le Brexit. C'est compliqué.
Et qui utilisent aussi des ouvriers agricoles venus de Roumanie.
Il y a beaucoup de contradictions dans ce vote, mais c'est vrai qu'il y a une dimension qui est importante, qui est il faut qu'on retrouve la maîtrise de nos frontières par rapport à l'immigration. Donc là, on retrouve des comportements politiques semblables à ce qu'on a connu en France avec le Front National ou ce que les États-Unis ont connu avec Trump. Il y a une conjonction qui n'est pas fortuite. Alors, Orban et les ministres d'extrême droite en Hongrie, c'est encore un autre aspect, même s'il y a eu quelques cas de violence en Hongrie, de violence xénophobe. Il y a eu des agressions de Polonais, des agressions de Roumains, notamment dans la foulée du vote du 23 juin 2016. Encore une fois, il est difficile de savoir comment ça peut évoluer.
Alors, Fabrice Ben-Simon, vous êtes ici au festival historique du film de Pessac. Non, parce qu'on va terminer. Je vais vous libérer parce que je sais que vous êtes là justement. Et qu'est-ce que vous allez exposer au public, aux festivaliers ?
Donc là, on a un débat à 17h sur l'histoire de la classe ouvrière, de la culture ouvrière en Grande-Bretagne. Donc, la Grande-Bretagne, c'est le premier pays qui a fait une révolution industrielle, qui a connu la révolution industrielle. Et c'est le premier pays où la classe ouvrière s'est développée, s'est constituée, donc une classe avec des intérêts propres, avec une culture qui lui est propre, avec des relations sociales qui lui sont propres. Et du coup, c'est le premier pays où il y a eu un mouvement ouvrier. Alors, ça paraît loin, et puis en même temps, c'est une culture qui reste très présente dans de nombreuses manifestations cinématographiques, comme c'est les films, les films qui sont présentés à ce festival. Traduisent cette histoire, rendent compte de cette histoire ouvrière britannique, et encore aujourd'hui dans le patrimoine, dans les traditions, voire parfois dans les luttes. Je pense par exemple, récemment il y a eu une lutte en Grande-Bretagne des coursiers à vélo de Deliveroo et d'autres entreprises, vous savez, de ce type-là où il s'agit d'auto-entrepreneurs, ce ne sont pas des salariés, ce sont des auto-entrepreneurs, donc un statut très différent des grandes formations syndicales traditionnelles, mais qui ont quand même trouvé le moyen
De défendre leurs intérêts.
Tout à fait, de défendre leurs intérêts collectivement, qui ont constitué un syndicat, qui ont fait des manifestations. Enfin, vous voyez, on retrouve des façons de se mobiliser qui sont héritées de cette histoire maintenant bicentenaire.
Et puis donc, on comprend que c'est aussi un sentiment d'appartenance à une grande famille et à la défense de leur statut.
Oui, du monde du travail, une fierté d'appartenir au monde du travail. Vous savez, il y a dans quelques mois un film qui sort qui s'appelle Peterloo, qui est un film de Mike Lee, qui parle d'un rassemblement populaire pour la démocratie, pour le suffrage universel, pour les droits des pauvres, en 1819. Un rassemblement qui avait été réprimé violemment par la troupe. Bon, le fait qu'un cinéaste de 2017 s'intéresse à cette histoire, c'est parce que le présent pose au passé les questions qu'il se pose et que ces questions de lutte des travailleurs sont toujours au cœur de nombreuses préoccupations, outre Manche comme ailleurs.
Donc j'imagine qu'un autre cinéaste comme Ken Loach vous est très familier. Ken Loach,
oui,
vous êtes aussi très familier.
Ken Loach est un de ceux qui a beaucoup parlé de cette de la vie des ouvriers, de la vie des travailleurs, de la vie des pauvres, qui a un peu même peut-être fait rentrer la presse ouvrière dans le cinéma, qui a montré que même si c'est la Grande-Bretagne est un pays où il y a une reine et une aristocratie, il y a un certain nombre de ces réalisateurs, de ces artistes, de ces écrivains parfois, qui s'intéressent aux classes populaires, aux victimes de la crise, aux victimes du thatcherisme, aux luttes des dockers ou des mineurs pour leur emploi et pour leurs conditions de vie.
Et au milieu Cockney.
Entre autres. Mais Ken Loach a beaucoup de ses films qui ne sont pas dans les... qui sont pas là. Bon, il a des films plutôt dans le nord de l'Angleterre, en Écosse, en Irlande. Enfin, il est allé voir bien au-delà de Londres, même si en effet il a plusieurs films qui sont situés dans les milieux très populaires londoniens.
Merci Fabrice Ben-Simon de nous avoir accordé du temps.
Merci à vous.